texte de saint Paul qu'on a lu répond à une des questions, donc je vais en profiter. Une des questions, c'était « La raison peut-elle nous amener au bonheur ?» Ben, vous avez la réponse, on vient de l'entendre. C'est-à-dire que si on veut la développer, donc, il faut montrer, on peut montrer assez facilement que la raison peut conduire au malheur comme au bonheur. Et on a les conditions qui sont dites assez clairement. C'est vrai que la raison qui s'alimente à partir de l'amour, hein, dans ce qui nous a été lu, donc c'est-à-dire par rapport au petit débat qu'on a eu hier ou à la discussion que nous avons eu hier, quand la pensée, la raison, la clairvoyance s'élèvent à partir de la vie en nous, hein, si vous voulez prendre ce vocabulaire-là, eh bien c'est vrai que la raison est comme l'accomplissement dans le champ de la raison de ce qu'est la vie. Et dans ce cas-là, c'est vrai que ça peut être un bonheur par conséquent. Hein, c'est un accomplissement de ce que nous sommes. Par contre, quand la raison, et c'est ça le piège dans lequel tombe trop facilement en tout cas la philosophie, quand la raison devient son propre principe, déconnectée de la vie, ou déconnectée de l'amour, hein, les raisonnements pour les raisonnements, si vous voulez, les démonstrations pour les démonstrations, aussi infaillibles soient-elles, eh bien là vous êtes dans une raison qui est mortifère, qui est déconnectée de la réalité, déconnectée de la vie en nous. Et donc la raison peut à la fois notre bonheur et notre malheur par conséquent. Bien évidemment. Voilà, donc ça, c'est, à partir de ce que l'on a lu de Saint-Paul, il y a moyen de, évidemment, comprendre que la raison n'est pas l'ennemi, évidemment, de l'existence, mais elle peut en être, au contraire, donc le développement, si vous voulez. Hein, on dira dans une formule que parfois j'utilise, c'est vrai que vivre, c'est quoi? C'est essayer de vivre tout ce que nous sommes jusque dans ce que ça donne à penser. Faute de quoi, si on n'essaye pas d'aller jusque dans ce que ça donne à penser, eh bien, on vit dans l'ignorance de soi-même. Ça n'empêchera pas d'être peut-être relativement heureux, en tout cas d'avoir du plaisir, mais on ne le saura pas, ou en tout cas on le vivra comme si on était un étranger, un clandestin dans sa propre existence, si vous voulez. Donc pouvoir vivre jusque dans la plus grande clairvoyance possible par rapport à ce que nous sommes, c'est une façon donc effectivement bien de s'assumer et de se donner toutes les chances de pouvoir être heureux. Mais ça on va reparler tout à l'heure, donc enfin, dans une heure on arrivera à quelque chose qui rejoint cette question-là. Ceci étant dit, je vais repartir d'une autre question maintenant par rapport à ce que je voulais raconter aujourd'hui et développer un peu, recommencer peut-être par une introduction avec une question qui est posée, qui dit ceci, qui demande ceci, pourquoi parlez-vous tant de la passion ? Puisqu'effectivement, hier, donc c'est le point de départ que je nous ai donné, il fallait bien en choisir un. C'est vrai que j'aurais pu en prendre un autre, donc ça c'est tout à fait évident. Donc je ne sais pas ce qu'il y a derrière la question ici, mais enfin, donc, telle qu'elle est libellée. Donc comprenez bien, ce que j'ai voulu faire, c'est effectivement en utilisant l'expérience de la passion dans laquelle tout le monde peut se projeter d'une façon ou d'une autre, avec la vie que l'on mène, même si ce n'est pas une passion amoureuse, mais des moments où on brûle, où on est effectivement enthousiasmé, si vous voulez, par telle ou telle chose que l'on vit, ben ça... quelque chose qu'on appelle donc la passion, si vous voulez, ça, tout le monde, normalement, le connaît, l'a expérimenté, ou tout le monde peut au moins imaginer ce que ça peut bien être. Donc, il m'a semblé que c'était une expérience, d'abord, relativement universelle, qui pouvait me permettre de... Le but, c'était pas de parler de la passion, le but, c'était, de, à partir de là, de faire apparaître ce qui se révèle de nous dans cette expérience, et qui, effectivement, l'expérience est tellement flamboyante, ben, devient, me semble-t-il, devient visible. Hein, maintenant, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce que je vous ai raconté. Ça, c'est un autre problème. Mais il me semble que quand on prend ce type d'expérience, ben, c'est vrai que le désir de toute puissance, le désir de fusion, hein, et l'envie de, enfin, la conviction de vivre une vie enfin justifiée, enfin, tout cela, ce sont des choses qu'on entend, ce sont des choses que l'on vit effectivement. Maintenant, vous comprenez aussi pourquoi j'ai choisi cela. Tout simplement parce que donc quand on m'a invité, donc on m'a dit, ben voilà, donc c'est un contexte effectivement donc, qui est dédié à des personnes homosexuelles ou à des familles hein, qui ont un membre, un proche homosexuel. Donc évidemment, homosexualité, couple, amour, enfin tous ces thèmes-là évidemment sont liés. Et l'enjeu que j'avais, c'était, en choisissant ce thème particulier donc de la passion et de la relation amoureuse, de montrer que l'on soit homosexuel, que l'on soit hétérosexuel, que l'on soit bisexuel ou que l'on soit encore autre chose, peu importe ici, dans tous ces cas de figure, si ce que je vous ai dit est juste, ce que l'on peut en déduire, c'est que donc dans tous ces cas de figure, c'est notre humanité qui s'y dit et qui s'y vit. Il n'y a pas la bonne formule, si vous voulez. Hein, donc dans notre culture à nous, ce serait l'hétérosexualité qui serait la manière d'être heureux et puis tous les autres qui sont des avatars ou des déformations, que sais-je. Dans toutes les manières de faire couple, pourvu qu'on est dans le respect mutuel, évidemment, hein, parce qu'on peut prendre des histoires où on maltraite des gens, ça c'est autre chose, hein, mais dans toutes les relations, quelles qu'elles soient,
où de fait il y a un véritable amour, si vous voulez, une réciprocité, hein, un partage, eh bien c'est vrai que ce qui s'y joue à chaque fois, c'est notre commune humanité. C'est en cela que nous sommes tous, on le chante même, qu'on est tous frères. Évidemment, c'est que nous sommes tous portés par ces désirs et que nous sommes tous confrontés pourtant en même temps à la finitude, solitude, incertitude. Que l'on soit homosexuel, hétérosexuel ou autre chose, c'est la même chose pour tout le monde. Simplement, nous le vivons chacun de manière singulière, nous le portons de manière singulière, et ce n'est pas simplement entre catégories qu'il faut le dire, hein, les homosexuels, les hétérosexuels, etc. Mais même à l'intérieur d'une catégorie, on en avait parlé un petit peu hier, chacun le porte encore à sa façon de toute façon. Il n'y a pas deux personnes les mêmes, mais néanmoins, c'est bien toujours les mêmes enjeux, le même déchirement, la même confrontation entre ce que l'on désire être et puis cette réalité qui est la nôtre néanmoins. Et donc, ce que je voulais faire, évidemment, en parlant de la passion et de la relation amoureuse, donc vous comprenez peut-être un peu mieux en le disant ainsi, c'est donc essayer de rejoindre ce qu'il y a d'universel, malgré les différences. Et vous comprenez, on dira c'est tellement universel, ou en tout cas la prétention, c'est que c'est tellement universel que même dans d'autres cultures, où ils n'ont pas le même vocabulaire, la même conception de l'être humain, etc., on a l'impression qu'on ne leur fait pas violence quand on imagine qu'ils vivent aussi avec ces enjeux-là. Même si eux, dans les autres cultures, vont le dire autrement, vont le formuler autrement, n'auront pas les mêmes catégories pour le dire, parce qu'ils sont dans une autre culture, mais on a l'impression qu'on ne leur fait pas violence si on a l'impression de les comprendre, eux aussi, avec ben, l'envie d'être tout-puissant, etc., et puis ben, les limites qui sont les leurs, enfin voilà, et tous ces problèmes hein, donc, que nous avions évoqués tout à l'heure. Donc, tout cela me permet, en essayant de répondre à cette question, donc pourquoi parlez-vous tant de la passion, ben, de resituer les choses, nous sommes partis de là, et ce que nous avons découvert, hein, donc c'est le point de départ, c'est nous sommes donc un être, souvenez-vous, qui est porté par des désirs, que nous formulons en termes de désir de toute-puissance, désir de fusion et désir que des choses nous soient dues, et de l'autre côté, nous nous heurtons à une réalité à laquelle nous n'échappons pas, qu'on y pense pas, qu'on ait une théorie là-dessus ou pas, peu importe, nous sommes quelqu'un qui est de fait limité, qui ne peut pas tout. Nous sommes quelqu'un qui voit toujours les autres lui échapper d'une façon ou d'une autre. Hein. Donc on peut être en relation, on est en relation, mais on ne rejoint pas l'autre. Et on est pris dans une vie qui peut tout nous reprendre, effectivement. On est confronté à cette fragilité de l'existence, bien sûr. Maintenant, j'aurais pu prendre une autre porte d'entrée. Donc puisque l'on m'a dit qu'il y avait aussi des parents hein, ici présents, donc je ne sais pas s'ils sont toujours là aujourd'hui, enfin, moi je ne sais pas qui est qui dans l'affaire, mais comment on aurait pu prendre une autre porte d'entrée. Donc dans le métier que j'exerce, puisque je donne pas mal de conférences à gauche, à droite, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de faire des exposés aussi sur la famille, enfin bon, des trucs comme ça, et j'ai eu l'occasion du coup, dans ces circonstances-là, de rencontrer des parents qui étaient confrontés donc, à ce qui pour eux était une difficulté, donc leur enfant, leur fils, leur fille, ben voilà, a déclaré son homosexualité. Et donc j'aurais pu prendre cette porte-là pour montrer exactement la même chose. Quand on est parent et qu'on est confronté à cette réalité-là, ben c'est vrai que dans ceux qui viennent me parler, moi je ne connais pas tous les parents évidemment, hein, mais dans ceux qui sont venus me parler, c'est toujours la même chose, c'est toujours de dire ben c'est quand même une épreuve, il n'y a rien à faire. On ne s'attendait pas, quoi, hein, ou on n'avait pas imaginé, ou voilà. Ouais. Et alors dans les cas qui m'ont été rapportés, pour que vous voyez un peu ce qu'on me dit, c'est souvent des dames qui viennent me parler, donc les mamans, et qui souvent parle de monsieur, en disant « mon mari ne veut plus voir son fils, ou ne veut plus voir sa fille, c'est fini ». Donc ça a été une bagarre terrible, et ça a été « tu dégages, ne plus te voir, fini ». Alors quand on veut essayer de comprendre ce genre de réaction, donc l'épreuve que ça peut représenter pour des parents, hein, pour ceux qui le vivent ainsi, je ne sais pas si tous les parents, j'ai jamais entendu un parent qui a dit « chouette, hein, génial, c'est... » En général, c'est quand même une épreuve, mais il y a des parents qui très rapidement acceptent la situation, mais ils sont surpris, quoi. Il faut le temps qu'ils retombent sur leurs pattes et puis l'affaire est réglée. Mais il y en a pour qui donc c'est un peu plus dur, manifestement. Donc dans ce cas-là, ben, si vous voulez essayer de comprendre maintenant, si on veut aider ces personnes à essayer de voir mais pourquoi c'est difficile. Alors c'est vrai que la réponse première que vous allez avoir, c'est, dans les choses qu'on entend, mais oui, mais c'est vrai que c'est difficile parce que notre fils ou notre fille, ben, on ne pensait pas qu'il était homosexuel, et bon, c'est quand même pas facile pour eux, on s'inquiète pour eux, enfin, je sais pas quoi. Et on va parler d'abord de la difficulté que l'on a comme parent en parlant de son enfant, parce qu'il est comme ça. Et on va dire toute une série de choses qui le concernent, et donc, ben oui, forcément qu'on s'inquiète pour lui, forcément comme c'est difficile à accepter. Bon. Maintenant, évidemment, ce qu'on doit dire quand on est confronté à des personnes qui ont du mal à vivre une situation comme celle-là, c'est que, en attendant, vous pouvez parler de votre fils ou de votre fille pendant des heures si vous le souhaitez, mais la difficulté, elle est quand même en vous. Et donc, vous pouvez bien en parler, moi je veux bien vous entendre, mais la question c'est pourquoi pour vous c'est difficile d'accepter ça? Est-ce que le problème est vraiment dans votre enfant? Mais non, le problème c'est ma souffrance à moi, c'est l'impossibilité d'accepter peut-être pour les cas les plus durs. Voilà, donc je n'arrive pas à accepter. Enfin, pour moi c'est difficile. Et la question c'est pourquoi c'est difficile pour vous? Et quand on essaye, quand les gens veulent bien essayer de commencer à répondre à cette question, hein, pourquoi c'est effectivement difficile quand on est parent, enfin pour ceux, du moins pour qui c'est une épreuve, eh bien c'est vrai qu'on se rend compte que le problème, c'est pas tellement que mon fils ou ma fille soit homosexuel, c'est pas ça le problème. Qu'est-ce que je n'accepte pas en réalité? Eh bien c'est toujours la même démarche, hein. Ce que je n'accepte pas au final, c'est quoi? C'est d'être le parent d'un enfant homosexuel. C'est ça qui est difficile, d'accepter ce parent. Moi j'aurais bien aimé être un parent d'un enfant entre guillemets, comme tout le monde. Et ce n'est pas mon cas. Et vous comprenez bien, donc, c'est-à-dire que c'est une question de deuil que vous avez là. Hein. Donc, c'est de pouvoir faire le deuil de ce parent que j'aurais cru être, que j'aurais aimé être, pour accepter, et c'est ça qui est parfois difficile, effectivement, peut-être plus pour les hommes, les papas, que pour les mamans, je n'en sais rien, mais c'est d'accepter ce parent que je suis en fait, qui est le parent d'un fils ou d'une fille homosexuelle. C'est de se réconcilier avec cela. Maintenant, si vous allez plus loin que cela, parce que ce n'est pas suffisant, si déjà les parents voient que le problème, hein, ou les personnes qui n'acceptent pas l'homosexualité en général, c'est qu'en fait ils n'acceptent pas d'être en présence d'eux, d'être des personnes qui, hein, donc voilà, c'est par rapport à moi que ça se situe, si déjà les gens voyaient ça, ça permettrait déjà d'avancer, plutôt que de dire c'est eux qui ont le problème. Mais non, c'est moi qui suis en difficulté, hein, bon, vous avez compris. Maintenant, pourquoi c'est difficile d'accepter d'être le parent d'un enfant homosexuel si c'est vrai que l'enjeu c'est ça, c'est ce parent que je ne serai pas, et l'impossibilité dans laquelle je suis d'accepter le parent que je suis de fait, que je le veuille ou pas. Eh bien, derrière les difficultés qu'il y a, enfin, derrière ce problème-là, pardon, les difficultés qu'il y a, c'est quoi? Eh bien, ce sont les trois désirs qu'on retrouve. Mon enfant homosexuel, il me met en échec par rapport à quoi? Ben, par rapport, tout simplement, d'abord à ce désir de toute puissance. J'étais persuadé de savoir qui était mon enfant, hein, toute puissance de celui qui sait tout, souvenez-vous, hein, la vérité. Hein, donc celui qui est tout puissant croit avoir la vérité. Hein, donc pour moi, ben, c'était effectivement un enfant comme tous les autres, etc. Enfin, tout ce que j'imaginais, peu importe. Et donc c'est vrai que quand il m'annonce qu'il n'est pas ce que moi je croyais, ben, vous comprenez bien que ce à quoi ils confrontent les parents, c'est à la finitude, le fait que je ne sais pas tout. Et donc non, j'ai raison, je sais que ça, c'est pas possible que tu sois ça, enfin. Et ce sont des parents qui vont s'enfermer dans cette toute puissance de celui qui sait mieux que les autres, évidemment, qui il est. C'est le désir de fusion. C'est tout d'un coup mon enfant qui m'apparaît comme un étranger pour moi, puisqu'il ne cadre plus avec ce que je pensais. Je voudrais bien que mon enfant soit, hein, souvenez-vous, fusion, soit le prolongement de ma chair, soit comme je le souhaite. Hein, et tout d'un coup... Ah, nous avons de jeunes recrues. Soyez les bienvenus. Bon, ça va être plus difficile peut-être. Mais enfin, bon. Oui, peut-être, voilà. Comment? Mais donc c'est vrai que voilà, le désir de fusion, moi qui croyais comprendre mon enfant, être sur la même longueur d'onde, etc., quand il annonce ce genre de choses, surtout pour les parents qui n'ont pas vu le coup venir, évidemment, hein, hein, un peu comme dans le couple dont je vous avais parlé hier, où la dame n'a pas vu le coup venir, évidemment, avec son mari, ben forcément qu'on a l'impression qu'on se retrouve devant un étranger. Et on ne reconnaît pas l'autre, on ne sait plus qui on est dans l'affaire, c'est la fusion qui est rompue. Et donc, quand on est touché dans ce désir-là, quelle que soit la relation en jeu, c'est vrai que ben, on souffre. Comme quand on est empêché d'être tout-puissant, d'être celui qui est censé savoir, évidemment. Et puis, parfois, il y a des parents qui vont aller toucher ou évoquer ce qu'on a appelé le désir qui est des choses qui me soient dues, hein, lorsqu'effectivement on dit « mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça ?» Sentiment d'une injustice, d'être éloigné de la vie qu'on aurait dû vivre. Il m'était dû de vivre une vie comme tous les parents du monde. Et moi, je me retrouve dans un scénario que je n'ai pas choisi, enfin. Et qu'est-ce que j'ai fait? Donc, sentiment d'être volé d'une vie qui m'était due et qui n'arrivera manifestement pas, évidemment. Hein? Et donc, c'est vrai que ces parents, quand ils essayent de réfléchir, quand pour eux c'est difficile, hein, quand ils essayent de se demander mais pourquoi on n'arrive pas à avaler la pilule, enfin. Hein, ça fait 10 ans et je n'arrive pas, ça reste une blessure pour moi. Eh bien, c'est tout ce que je vous ai raconté qui s'applique ici, c'est une manière de mettre des mots dessus en tout cas, c'est parce que je suis touché dans les désirs qui me portent dans l'existence. Et qu'est-ce que ça révèle de ce que je suis? Ben, ce que ça révèle de ce que je suis, c'est que de fait je ne suis qu'un parent limité, qui ne sait pas tous ses enfants. Et j'ai beau croire que je sais tout ce que vous voulez, mais en attendant, ben non, mes enfants m'échappent, et donc c'est la finitude et c'est la solitude, évidemment les deux qu'on retrouve ici liés, bien sûr. Hein, mon enfant ne m'appartient pas. Et c'est difficile de lâcher son enfant quand c'est pour une vie qui n'est pas rassurante, qu'on ignore, qu'on ne comprend pas, évidemment. Et puis évidemment, donc, c'est être confronté par conséquent hein, à l'incertitude de l'existence. Ben, j'ai beau avoir aimé mon enfant, etc., ben, il ne m'est pas dû de vivre la vie de parent que j'aurais bien rêvé, évidemment. Hein. Donc ça peut être une autre vie à laquelle on est confronté. Manifestement, la vie est décidément incertaine, effectivement. Donc c'est vrai que tout ce que je vous ai raconté, ce n'est pas propre, pour reprendre la première question, ce n'est pas propre à l'expérience amoureuse. C'est une porte d'entrée pour faire apparaître notre humanité. Mais maintenant, si vous prenez un autre thème qui peut nous concerner ici, hein, donc le statut de parent et les parents pour qui c'est difficile, on se rend compte qu'eux-mêmes sont embarqués dans la même histoire. Mais d'un autre point de vue, évidemment, en tant que parents. Et ce n'est pas toujours facile pour certains. Il y en a qui ont plus de facilité que d'autres, manifestement, mais il y en a pour qui donc, hein, dans ceux qui me parlent de temps en temps, ben, voilà, c'est les deux ou un des deux qui est à la peine et qui n'arrive pas, enfin, qui n'arrive pas à se faire à l'idée hein, que son enfant n'est pas comme lui imaginait qu'il devait être, bien évidemment. Donc c'est toujours un deuil par rapport à soi, par conséquent. Alors, ceci étant dit, maintenant que je vous ai rappelé un peu ce que l'on avait évoqué hier, donc ce que je voudrais vous raconter, c'est pour avancer un peu et pour retrouver la question du bonheur, hein, puisque c'était aussi un des fils. Donc, enfin, il y a plusieurs fils, donc c'est un peu compliqué, mais enfin, voilà. Donc c'est de voir un peu comment ça se passe maintenant. Donc c'est vrai qu'on a hier décrit simplement donc, ces deux pôles qui nous déchirent, qui ne s'emboîtent pas bien. Le pôle des désirs d'un côté et la réalité à laquelle on est confronté, avec laquelle on a du mal. Quand on lit les philosophes, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis intéressé à ces questions-là, on a toujours l'impression que c'est facile. C'est-à-dire, ben c'est vrai qu'on est dans nos désirs, mais si on prend conscience de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains, finitude, solitude, incertitude, il suffit d'en prendre conscience et bingo, ça y est, l'affaire est réglée, vous êtes en harmonie avec vous-même. Ben, je vous avoue que moi j'ai toujours eu du mal avec ça. Je me suis dit, là, il y a peut-être quand même une illusion du côté des philosophes, comme s'il suffisait de savoir pour pouvoir être ce qu'on a compris. Hein, il y a une petite phrase que j'avais écrite à un moment donné qui disait ceci, qui disait, il ne suffit pas d'avoir compris ce qu'on est pour être ce qu'on a compris. Et quand vous lisez ce que certains psy racontent, effectivement, de l'homosexualité, c'est précisément ça qu'on vérifie de temps en temps. Donc je dis de temps en temps, parce que moi je ne connais pas tous les homosexuels évidemment, mais de savoir à un moment donné, quand le franc tombe, que finalement, mais je suis homosexuel. Et que, voilà, et maintenant j'ai compris pourquoi il y avait un problème, pourquoi j'étais dans des relations un peu bizarres, je ne m'y retrouvais pas, etc. Donc il y a des gens qui racontent, voilà, donc c'est tout un cheminement où on ne part pas de l'idée ou de la conviction qu'on l'est, on n'y pense même pas, puis petit à petit l'idée fait son chemin, et puis tout d'un coup, ben voilà, on voit bien que, enfin on a compris quoi, hein. Oui. Ah, attendez, je vais y revenir. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on l'a compris. Mais n'empêche que le fait de l'avoir compris ne suffit pas encore pour pouvoir l'être maintenant. C'est encore une autre étape d'assumer ce qu'on a compris. Donc, il ne suffit pas d'avoir compris ce qu'on est, quand tout d'un coup, on a l'impression d'avoir enfin mis le doigt sur une vérité qui nous concerne. Il ne suffit pas d'avoir compris ce qu'on est pour être ce que l'on a compris. Mais avec les philosophes, on a l'impression que oui. Hein, il suffit de méditer, l'affaire est réglée. Alors remarquez bien qu'il n'y a pas que les philosophes qui vont peut-être un peu trop vite, qui en font une espèce de chose purement intellectuelle. Quand vous prenez le discours religieux, même chose, hein, il pourrait y avoir un usage du discours religieux qui effectivement serait du même acabit, la foi, hein, qui serait utilisée pour, ben, une fois qu'on a compris, il faut avoir la foi et l'affaire est réglée, je n'ai plus qu'à m'assumer, comme si c'était une espèce de révélation qui nous tombait dessus, si vous voulez. Faire attention, parce que ce que montre la réalité, c'est que, hein, c'est pas parce qu'on a compris ce qu'on est ce qu'on a compris, en réalité, il ne suffit pas d'avoir une révélation, il ne suffit pas de méditer à la façon des philosophes, ou que sais-je d'autre, en réalité, on se rend compte que pour pouvoir accepter ce que l'on est, c'est-à-dire cette réalité constituée de la finitude, solitude, incertitude, eh bien dans le fond, c'est tout un processus, et que à trop penser, ou à trop se réfugier trop vite dans la foi ou dans je ne sais quoi d'autre, on se dispense de vivre tout ce que l'on doit vivre pour pouvoir accepter. Et donc ce dont je voudrais vous parler 2 minutes ici, c'est de tout ce cheminement par lequel on voit comment les gens se débrouillent pour finalement se réconcilier avec ce qu'ils sont dans la vie. Le but étant ceci, le but étant, pour que vous voyez un peu pourquoi je m'y suis intéressé donc, c'est d'abord qu'il faut accepter d'y passer, il n'y a rien à faire, il faut accepter de vivre les choses, quoi, si vous voulez, et il n'y a pas à se culpabiliser de les vivre. Quand bien même ce seraient des comportements ou des attitudes qui sont discutables ou qui sont critiquables au regard de la bien-pensance, quand on doit accepter ce que l'on est, qui n'est pas facile à accepter, quand on doit se libérer de tout ce qu'on n'est pas, hein, donc c'est ça qui est un deuil finalement, hein, donc faire le deuil de tout ce qu'on n'est pas pour accepter ce que l'on est, eh bien c'est tout un cheminement. Et la pensée peut être une manière de fuir. La foi peut aider, mais la foi peut être une manière de fuir aussi. Et donc faire attention. Alors en gros, donc, ce que nous raconte, donc je vais en dire un mot très rapide, donc ce qu'on nous raconte, c'est ceci. Donc on va remettre tout ça en vie maintenant, si vous voulez, parce qu'il n'y a pas que deux colonnes, les unes à côté des autres, évidemment. Quand on vit sa vie, le plus souvent, tant que rien ne vient vous contrarier, eh bien, nous vivons dans nos désirs. J'ai l'impression que je mène ma vie, rien ne s'oppose à mes projets, tout ce que vous voulez. J'ai l'impression de, sans en faire une théorie dans ma tête, une fois encore, mais de me sentir suffisamment tout-puissant. Le monde m'obéit, quoi, si vous voulez. Hein, j'ai des projets, je les réalise, ça marche, enfin voilà. J'ai l'impression que les autres me respectent, m'aiment bien, etc. Ben, tant que je suis dans ce type de relation-là, j'ai l'impression que nous sommes sur la même longueur d'onde. Et c'est d'une certaine façon ce désir de fusion qui est comblé aussi. Et ben, voilà, il m'est dû ce qui m'est dû, je travaille, j'ai un salaire, enfin les choses sont dans l'ordre. Donc c'est vrai que tant que rien ne vient vous contrarier, que tout obéit à ce que nous pensons devoir vivre, eh bien nous sommes plutôt enfermés dans nos désirs et... par conséquent, dans notre imaginaire, mais qui semble être réel, puisque rien ne vient le contrarier, évidemment. Hein, c'est le cas de la passion, si vous voulez, tout d'un coup, ça y est, on s'aime, et on est parti, on croit que c'est vrai, quoi, hein, on croit que c'est comme ça, et pas autrement, bien sûr. Donc, on est toujours d'abord dans son imaginaire. La psychologie, par ailleurs, mais enfin, je ne vais pas en parler ici, nous montre que c'est tout à fait normal, et qu'un enfant, effectivement, grandit d'abord dans son imaginaire et dans ses affects, avant que d'être dans la réalité, etc. Donc, c'est, voilà, enfin, il n'y a pas à juger, c'est comme ça, et ça doit être nécessairement comme ça. Bon. Maintenant, lorsque tout d'un coup, la réalité vous tombe dessus, je ne suis pas ce que je pensais être. Ou bien, pour reprendre l'exemple des parents, hein, tout à l'heure, mon enfant n'est pas ce que je croyais qu'il était. Eh bien, c'est quoi ? Donc, quand la réalité, donc c'est la finitude, etc., donc quand la réalité, d'abord objective, me tombe dessus, eh bien, c'est mon monde imaginaire qui, tout d'un coup, s'effondre. Catastrophe. Et le réflexe premier, c'est là qu'il faut maintenant montrer tout le processus. Ça ne va pas de soi. Le processus normal, quand on est tout d'un coup ébranlé dans son monde, dans ses convictions, dans ses croyances, dans tout ce que vous voulez, quand tout d'un coup tout ça est malmené, eh bien le réflexe normal, c'est tout simplement dans un premier temps de rejeter la réalité. On n'en veut pas. C'est-à-dire que ce qu'on va faire, et c'est tout à fait, donc, de nouveau, il n'y a pas à juger, hein, c'est là le problème, c'est qu'on est toujours avec des jugements, c'est pas bien, etc., il faut accepter. C'est tout à fait normal que dans un premier temps, on rejette la réalité. C'est trop dur. Par exemple, alors on peut le faire de manière parfois tout à fait étonnante, hein, ça ne dure parfois que 2 secondes, la tentative de repousser le réel. Par exemple, imaginez, hein, donc, cas de figure, dans un couple, l'un dit à l'autre « je te quitte ». Donc c'est un deuil, évidemment, hein, donc c'est le monde qui s'effondre. Ben, une manière de repousser la réalité, ce sera de faire quoi, par exemple ? Ce sera de dire à la personne qui dit ça, ce sera de dire « c'est pas vrai, enfin, dis-moi que c'est une blague ». Et vous voyez, on repousse. Mais dans ce cas-ci, ça ne dure que 2 secondes, parce que l'autre va répondre tout de suite, ben non, c'est pas une blague, je te quitte effectivement, ma valise est faite, je pars, enfin. Mais n'empêche que pendant 2 secondes, on a eu besoin de repousser. C'est inacceptable. J'ai pas la case pour comprendre ce que tu me dis. J'ai pas la place dans ma tête, enfin, c'est pas possible. Ben, avec quoi tu viens ? Enfin bon, donc on repousse. Ce n'est que dans un deuxième temps, par conséquent, qu'on voit les gens, dans la majorité des situations en tout cas connues, qu'on voit les gens progressivement accepter. Il y en a qui refuseront toute leur vie. Souvenez-vous, nous sommes finis, il y en a pour qui, c'est leur limite. Je ne peux pas accepter ça. Mais dans la majorité des cas, on se rend compte que, donc dans 9 cas sur 10, si vous voulez, dans tous les deuils possibles et imaginables qu'on est susceptible de vivre, on se rend compte que les deuils ne deviennent pas pathologiques et que finalement, les gens arrivent à se réintégrer la réalité, à l'accepter, bien évidemment. Donc le processus ici dont on parle, c'est un processus qui est toujours un moteur à 2 temps, si vous voulez. Premier temps, le refus. Le deuxième temps, c'est... une espèce d'acceptation. Maintenant, quand on veut aller un peu plus loin, et c'est là que je voudrais dire un petit mot, quand on regarde ce que l'on fait pendant qu'on refuse, quels sont les comportements qui traduisent effectivement le fait que pour le moment, pour moi, c'est trop dur, ce qui est en train de se jouer là, et que je n'arrive pas donc à l'intégrer dans mon existence, eh bien vous avez, donc ça peut-être que vous l'avez déjà entendu, on ne peut pas réinventer la roue, évidemment, c'est des choses qui sont connues, vous avez 3 comportements majeurs. Et ce que je voudrais bien que vous entendiez donc, c'est pas tellement d'en parler qui est intéressant, parce que ça vous connaissez peut-être, mais c'est que vous compreniez que ce sont des comportements normaux. On n'a pas à se culpabiliser de les vivre. Or, trop souvent, vous avez des gens, mais c'est pas bien, on peut pas, etc., etc., ceux qui le vivent eux-mêmes, ou bien les gens extérieurs qui vont juger ceux qui vivent ces comportements. Alors les trois comportements en question, ce sont les suivants, donc je vais faire vite. Hop. Une apparition. Comment, premier comportement possible, c'est tout ce qui relève de la fuite. L'attitude que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est pas possible, dis-moi que c'est une blague, c'est une forme de fuite. On essaye d'anéantir le problème. C'est une blague, ça ne peut être qu'une blague. Maintenant, il y a d'autres manières de fuir le problème, donc d'essayer de... Voilà, donc, et vous comprenez bien ce qui est en jeu. Hein, en fuyant le problème, je me conforte dans ce que je suis. Je renforce mon monde à moi. Hein, je suis en train d'essayer de le restaurer comme je peux. Quoi. Alors, je vous donne quelques exemples de manières de fuir, parce qu'on est champion quand même pour le faire. Enfin, je ne suis pas en France, mais en Belgique, en tout cas, on est champion. L'imagination n'a pas de limite, évidemment. Donc, une manière de fuir, par exemple, ben, c'est, si vous reprenez la situation d'abord des parents, effectivement, et parfois des pères, principalement, enfin, dans les histoires qu'ils nous ont racontées, qui mettent leur enfant dehors, ben, on supprime le problème. Voilà. Dégage. Ben, c'est une forme de fuite. Donc ce n'est pas le fait de mettre son enfant dehors qui est en jeu, c'est le fait que moi je ne veux plus y être confronté. Et quand mon enfant est dehors, j'ai l'impression que je n'y pense plus, alors qu'on ne pense qu'à ça évidemment, mais enfin, donc j'ai l'impression que je n'y pense plus, que le problème a été réglé, il n'existe plus. Mon enfant pour moi n'existe plus, point. Et je ne veux plus en entendre parler. Donc c'est, voilà, donc c'est la suppression, la violence n'est pas loin, mais ça vous verrez c'est un autre comportement, mais ici c'est le fait de ne plus voir le problème, c'est ce qu'on appelle en psychologie, hein, des comportements qui relèvent du déni. Hein, vous avez déjà entendu ce nom-là, le déni, donc où de fait je vais me mettre dans un état où je ne vois réellement plus le problème. Mon enfant est parti, je n'y pense plus, c'est tout, et le problème n'existe plus. Et je ne veux même plus qu'on m'en parle. Donc c'est vraiment, voilà, je l'efface. C'est tout. Maintenant, vous avez d'autres manières plus subtiles, évidemment. Vous avez par exemple la distraction. Donc des gens, quand ils sont confrontés à un problème, eh bien, ils vont tout faire pour essayer de ne pas y penser, et une manière de ne pas y penser, c'est d'être dans la distraction, ou ce qu'on appelle aussi en philosophie le divertissement. Plus je suis distrait par le monde, et moins j'y pense, mieux je me porte. Moins je pense à mon problème. Donc, par exemple, des gens qui, face à cette situation, vont s'abrutir dans le travail. Pour prendre un exemple classique, et voilà, et plus je suis pris là-dedans, bon, ou bien des gens qui vont tout d'un coup avoir une vie où ils vont s'occuper de mille choses. Je m'occupe du Kiwani Club Bazar, enfin, je ne sais pas si vous avez ça, ou des Kiwani Club trucs, enfin bon, des associations de machin truc brol, et plus je suis distrait par mille associations, moins je pense à qui je suis, mieux je me porte. Hein, donc, ou bien de suroccupation, des gens qui viennent donner des conférences, même le dimanche. À force d'être tout le temps parti à donner des conférences à gauche, à droite, je ne suis pas chez moi. Et donc c'est vrai que parfois dans des couples hein, où ça ne marche plus, donc chez moi ça va, hein, donc rassurez-vous, mais enfin je pense, enfin, maintenant il faut demander à ma femme, enfin, mais ouais, parce qu'on serait bien surpris finalement, mais enfin je serais le premier surpris pour le coup, pour le coup, oui. Mais voilà, donc c'est vrai qu'il y a des couples en tout cas, hein, où voilà, le fait d'être tout le temps parti sur les routes, hein, d'aller à gauche, à droite, de s'occuper de mille choses, on se dit vu de l'extérieur, waouh génial, ces gens qui sont généreux comme tout. Hein, mais c'est toujours l'ambiguïté de la générosité. Dans certains cas, c'est sincère et puis c'est tout. Il n'y a pas de question à se poser. Mais dans d'autres cas, c'est une générosité qui fait bien les affaires de la personne concernée. Hein, voilà. Plus je suis occupé, moins je pense à telle ou telle difficulté que j'ai dans ma vie, bien évidemment. Donc la suroccupation, ça c'est un thème classique, bien sûr. Autre exemple aussi que l'on peut donner, c'est l'idéologie. Ce qu'on appelle l'idéologie. L'idéologie, enfin, en philosophie, on utilisera souvent ce mot-là. C'est quoi l'idéologie ? C'est tout simplement le fait qu'on va vous raconter une histoire, on va expliquer ce qui est en train de se produire, avec des éléments qu'on est persuadé, enfin, pour lesquels on est persuadé qu'ils sont vrais, donc on n'est pas dans le mensonge, hein, pour faire clair. Donc on va vous raconter une histoire qui est vraie, enfin qu'on a l'impression du moins être vraie, pour mieux ne pas voir ce qu'on ne veut pas voir. Donc par exemple, des personnes qui vont s'acharner, donc dans le thème qui nous réunit ici, enfin dans les questions qui nous réunissent ici, on va s'acharner à se persuader avec des démonstrations, des trucs de la psychanalyse, de tout ce que vous voulez, que décidément l'homosexualité c'est un problème. Et vous allez avoir des acharnés pour vous le démontrer, hein. Et ils n'en sortiront jamais, hein. Et je peux vous démontrer, il y a des études qui, enfin tout ce que vous voulez, enfin voilà, et, hein, en France vous êtes en tout cas, enfin il y a des gens manifestement qui sont des champions ici, hein, où on milite, on sort, enfin on revendique pour montrer que les homosexuels, je ne sais pas quoi, enfin tout ce qu'on peut imaginer, et preuve à l'appui quoi, hein. Ben vous êtes dans l'idéologie. Et vous comprenez bien par rapport à quoi, enfin c'est quoi l'enjeu ici, c'est surtout de ne pas reconnaître que je pourrais me tromper. Toute puissance, je veux rester toute puissance, c'est moi qui ai la vérité. Donc je vais vous démontrer que j'ai raison de dire que ces gens-là décidément ne sont pas normaux. Et c'est parti. Et des discours, et des discours, et des discours. Et ça, c'est interpellant, évidemment. Hein. Donc pour mieux ne pas se remettre en question et accepter que ben, l'autre n'est pas moi, qu'il y a différentes manières d'exister. Ben, non, non, ça c'est pas possible, ça c'est, je perds le contrôle si c'est le cas, je perds ma toute puissance. Donc j'ai raison de penser ce que je pense et je vais vous démontrer que idéologie. Ça c'est un fameux problème évidemment. Quand vous avez une séparation, par exemple dans un couple, pour vous montrer comment ça peut se manifester maintenant dans d'autres circonstances, imaginez donc que vous connaissez les deux personnes qui se séparent. Vous allez discuter avec l'un et le premier vous dit « L'autre, mais un salaud, hein ?» Et tu sais quoi ? Ben forcément que je l'ai quitté. Et il vous fait tous les défauts, la liste de tous les défauts de l'autre. Hein, et évidemment, la conclusion, c'est que je ne pouvais que le quitter. Hein. Vous connaissez les deux, vous savez que la liste de tous les défauts, c'est pas faux. On n'est pas dans le mensonge. C'est exagéré, c'est vrai. Parce qu'il est toujours sous le coup de la colère. Mais c'est vrai que l'autre a fait ceci, qu'il n'a pas fait cela, enfin je sais pas quoi, tout ce que vous voulez. Et donc, addition de tous les défauts, c'est je ne pouvais pas vivre avec encore une seconde de plus, forcément, donc je l'ai quitté. Vous allez voir l'autre maintenant. Et l'autre, qu'est-ce qu'il vous raconte ? L'autre, là-bas ? Mais tu sais quoi ? Et hop, et c'est parti. Et vous avez la liste de tous les défauts de l'autre, hein, évidemment. Et même conclusion, ben forcément que c'est un salaud, et par conséquent, forcément que je l'ai quitté. Enfin, voilà. Et l'affaire est réglée ainsi. À quoi ils jouent tous les deux ? Ben, ils jouent à ceci que donc tous les deux convaincus, donc ce ne sont pas des menteurs, on n'est pas dans le cas du mensonge, hein, tous les deux sont en train de vous proposer une explication de la séparation. Et ce qu'ils font, c'est toujours ceci, donc ce sont des trucs classiques, hein, ce n'est rien d'autre que de vous donner les éléments qui leur permettent de ne pas voir ce qu'ils ne veulent pas voir, de fuir ce qui est problématique. Et qu'est-ce qui est problématique ? Ma grand-mère disait toujours, quand on se sépare, on est toujours deux à se séparer. Et donc, c'est pas que les deux ont les mêmes torts nécessairement, ça la vie évidemment distribue les cartes différemment, mais on est quand même deux à se séparer enfin. Et donc à quoi ils jouent tous les deux ? Eh bien à ne pas voir que je suis peut-être en partie responsable quand même de cette séparation. Non, 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 c'est pas moi, c'est l'autre. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est l'autre. Et ce sont tous les défauts réels dont je peux faire le catalogue, hein, qui seront la démonstration. Donc plus je me persuade que c'est la faute à l'autre, moins je veux voir évidemment que je suis peut-être en partie responsable aussi. Et ceci dit, parce que moi je me suis fait une fois remonter les bretelles avec ça, donc je ne sais pas s'il faut dire ça. Un jour, j'ai une connaissance qui me parle de sa séparation et qui fait ce petit jeu. Enfin, il m'a semblé du moins que c'était ce petit jeu. Oui, mais l'autre ceci, l'autre cela, etc. Donc forcément, je ne suis plus avec. Alors moi, croyant bien faire, je lui ai dit, ben oui, mais enfin, mais avoue quand même que toi aussi, ceci, tu vois, rien que de dire, toi aussi, tu as fait des bêtises, mais je me suis fait engueuler, tu dégages, tu n'as rien à me dire. Hein. Tu ne connais pas mon couple, tu n'en sais rien. C'est-à-dire, alors après, donc sur le moment même, j'étais encore un peu jeune et naïf, je suis parti. Je vous avoue, un peu dépité, en me disant « mais qu'est-ce que j'ai été dire, moi, de méchant, là ?» Enfin, voilà, il n'y avait aucune intention de quoi que ce soit. Après coup, quand j'ai lu, enfin, quand j'ai compris toute une série de choses, hypothèse, il faudrait que j'en reparle avec cette personne maintenant, pour être sûr, hein, parce qu'on peut toujours interpréter et se tromper, bien sûr, mais hypothèse, c'est qu'en allant dire « oui, mais toi aussi, avoue quand même que », ben, justement, vous mettez le doigt sur la chose que précisément le type ne veut pas voir. Donc évidemment, j'ai été d'une naïveté incroyable, hein, en allant dire ça comme si c'était pour aider la personne, alors qu'en fait, c'était trop tôt. Évidemment, elle est encore, donc c'est encore des braises trop chaudes, si vous voulez, et vous allez souffler dessus, bah, évidemment, hein, forcément, je me suis fait avoir. Enfin, bon. Donc, des gens qui sont enfermés dans l'idéologie, vous savez que si vous les attaquez pour démontrer qu'ils ont une version erronée, bah, vous savez que vous allez provoquer la violence, probablement, parce que c'est justement, vous les attaquez dans leur défense pour ne pas être confrontés à ce qu'ils ne veulent pas, évidemment, voir, et c'est là la difficulté, bien sûr. Hein. Donc vous avez, autre exemple que l'on peut donner, c'est par exemple la passion, justement, à laquelle on revient ici. La passion peut être une fuite. Donc ça, j'avais un maître de philosophie, quand j'ai fait mes études, qui nous disait toujours ça. Quand on est fou amoureux de quelqu'un, donc la passion classique, mais ça peut être la passion pour les timbres, hein, si vous préférez, enfin, peu importe, donc, mais quand on est dans la passion, c'est vrai qu'on fuit, dans le fond. Alors, avoue que quand on était gamin, nous autres, on se disait, ben, on fuit rien du tout, enfin, il ne faut pas se qu'on fuit dans l'affaire. Hein, mais n'empêche qu'il n'avait peut-être pas tort, il nous disait ceci, on fuit toujours au moins une chose dans la passion, c'est ce en quoi elle est problématique, c'est qu'on fuit la solitude. Or, souvenez-vous, la solitude, on ne peut pas y échapper. Et c'est ça le problème de la passion. Hein, donc on en a parlé hier, je n'y reviens pas, bien évidemment. Mais c'est vrai que maintenant, il y a toute une série d'histoires, hein, pour prendre des choses plus triviales, il y a toute une série d'histoires où on voit que des personnes comment ont vécu une séparation, par exemple, et très rapidement vont se remettre avec quelqu'un d'autre. Et c'est parfois troublant, hein, selon les histoires. Hein, il y a des fois où c'est pas troublant, mais enfin, il y a des fois où on est un peu surpris, si vous voulez, et on se rend compte que cette autre histoire qui débarque là tout d'un coup comme par hasard, c'est une manière de mieux fuir la séparation qui est encore trop douloureuse. C'est un distracteur, quoi, si vous voulez. Il y a toute une série de cas que je pourrais vous raconter, mais enfin, on n'a pas le temps. Mais c'est vrai que donc, s'interroger toujours, hein, quand quelqu'un vous dit « je t'aime », demandez-lui toujours « mais qu'est-ce que tu fuis ?» Ben oui, par conséquent. Ben, forcément, hein, donc, c'est ce que vous voulez. Et le problème, c'est qu'il y a toujours bien quelque chose que l'on fuit, donc au moins la solitude, évidemment, dans ces cas-là. Enfin bon, donc vous avez cette première attitude qui est une attitude de fuite. Bon, il y a plein de manières de fuir, évidemment, donc ça, chacun se débrouille comme il peut, mais comprenez bien, c'est un comportement qui est normal. On voudrait bien parfois dire aux personnes, mais ouvre tes yeux, arrête de fuir. C'est trop tôt. La personne en a besoin, il faut lui permettre de pouvoir, dans un premier temps, mettre de côté la réalité qui est dérangeante. Maintenant, vous avez un deuxième comportement qui traduit le fait qu'on n'accepte pas la réalité. C'est un comportement plus classique, dont Paris est un peu le théâtre ces derniers temps, c'est la violence. Donc si vous partez du comportement, quand vous avez quelqu'un qui est dans la violence, il a toujours une bonne raison. Ça n'excuse pas la violence, hein. Mais on n'est pas dans le champ de la morale pour l'instant où on doit juger. C'est quand on veut comprendre, il n'y a personne ici qui serait violent sans avoir une raison de l'être. Gratuitement, sans raison. Donc ça veut dire la personne méchante, si vous voulez, hein, la morale qui nous a appris ça. Il y a des personnes qui sont méchantes. C'est qui les méchants? C'est les violents. Hein, sous-entendu, les gens sont libres et ils pourraient être gentils, mais ils ont choisi d'être méchants. Ça, c'est faux. Hein. La personne qui choisit d'être méchante, il n'a pas une bonne raison de l'être. Et donc, derrière la violence, quand on n'a pas trop peur, ou quand on peut du moins parler, ou après un moment de colère ou de violence, c'est toujours de comprendre, mais quelle est la bonne raison qui fait que tu as eu besoin de péter un câble? Et il y a une bonne raison pour la personne que vous allez peut-être trouver ridicule. On ne se met pas en colère pour des bêtises pareilles. Mais pour la personne, ce n'est pas ridicule. Et si vous allez plus loin, vous voyez comment on joue avec tout ce que je vous ai raconté hier, vous avez deux questions que vous pouvez poser, en fait. La première question, mais qui n'est pas la meilleure pour moi, c'est « mais qu'est-ce que tu n'arrives pas à accepter qui fait que du coup tu es en colère ?» Hein, si vous prenez l'histoire, pour faire simple, du père qui chasse son enfant, vous voyez ce que je n'arrive pas à accepter. Il va d'abord dire « mon fils ou ma fille ». Mais non, ce n'est pas ça que tu n'arrives pas à accepter. Ce que tu n'arrives pas à accepter, c'est d'être le père d'un enfant, comme ça. Et c'est ça que tu n'arrives pas à intégrer dans ta vie. Et ça, on peut le comprendre. Donc, ça ne veut pas dire que ça excuse tout, mais on peut au moins comprendre que ça soit difficile pour cet homme-là ou pour cette femme-là, hein, de pouvoir accepter. Maintenant, il y a une autre question que vous pouvez poser, évidemment, c'est qu'est-ce que tu n'arrives pas à lâcher? Et cette question-là, moi, je trouve qu'elle est préférable. Pourquoi? Parce que pour accepter ce qu'on est, il faut d'abord accepter de lâcher ce qu'on n'est pas. Mais à quoi on tient? Donc, par exemple, si vous prenez la situation, hein, d'un père qui ne supporte pas, qui ne veut pas de la faire, ben, ce que je n'arrive pas à lâcher, c'est le père que je voudrais bien être, moi. Le père d'un enfant, comme tous les enfants, je ne sais pas quoi, enfin comme je l'imagine, quoi. Et tant que je ne lâche pas ça, je ne peux pas accepter le père que je suis en réalité. Donc vous comprenez, voilà. Donc derrière la violence, vous avez toujours cet enjeu. Il n'y a personne qui est violent sans raison. Il y a toujours des raisons qui sont bonnes pour la personne concernée, même si de l'extérieur on se dit, bon enfin, c'est ridicule cette affaire-là. Mais pour elle, c'est trop dur. Et ces raisons, c'est l'incapacité de lâcher ce qu'il faut lâcher. En général, si vous grattez comme ça, vous allez toujours tomber sur ce à quoi je tiens qui fait que l'autre me met en danger, enfin, hein, pour le dire autrement, bien évidemment. Maintenant, cette violence, donc là, évidemment, je vais peut-être vous choquer, mais si vous comprenez bien qu'il y a des personnes qui en ont besoin, étant donné ce qu'elles sont, tout le monde n'en a pas besoin, hein, mais si vous comprenez bien qu'il y a des personnes qui en ont besoin, il faut le permettre. Avec une limite, néanmoins. Qui est non négociable. Là, il n'y a aucune excuse, évidemment, c'est qu'on ne frappe personne, c'est une évidence. Mais au-delà du fait qu'on ne peut frapper personne, il ne s'ensuit pas que donc on ne peut pas être violent, qu'on ne peut pas dire sa colère, son désespoir, son agressivité. Maintenant, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de morale à avoir là-dessus. Sauf au moment où on commence à attaquer la personne, physiquement. Là, il faut intervenir. Mais pour le reste, on a le droit de casser, on a le droit de gueuler, on a le droit de crier, enfin enfin voilà, tout ça, ça doit pouvoir se vivre. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais non, quand même, c'est pas bien, c'est méchant, enfin, ça ne va pas, etc. Alors, de deux choses l'une, pour que vous compreniez pourquoi j'ose dire ce que je dis ici, si vous empêchez cette violence de s'exprimer chez les personnes qui en ont besoin, une fois encore, hein, eh bien, ce que vous prenez comme risque alors, c'est de faire des bombes à retardement, pour dire les choses simplement, et vous avez deux issues possibles ici que malheureusement l'actualité nous démontre. Première, de temps en temps en tout cas, première issue possible, c'est ce qu'on va appeler la violence en différé. Donc la violence en différé, ce sont des gens qui vont garder, parce qu'il faut être gentil, donc on fait le gentil, hein, mais en attendant j'en ai marre, moi je râle, donc je garde, jusqu'au jour où je n'arrive plus à garder. Et donc c'est la violence qui va sortir, parfois des jours plus tard, parfois des semaines plus tard, parfois des années plus tard, et qui va sortir hors contexte. Et alors là, c'est le raz-de-marée, c'est quand on n'arrive plus à se retenir, si vous voulez. Et ça, c'est le tsunami. Et dans ce cas-là, vous avez intérêt à courir vite. Parce que ça, c'est terrible. C'est un peu ce à quoi on assiste ici, hein. Enfin, ça donne à penser à ça, hein. On tient, on est plein d'espérance, on croit que Macron c'est le sauveur, je ne sais pas quoi, pas tout ce que vous voulez, et on espère, en attendant on prend des coups, on voit des injustices, des trucs, enfin, des gens qui ont l'impression que tout ça, ça ne va pas du tout, et puis à un moment donné c'est parti, hein. Et après maintenant il faut récupérer la sauce, quoi, évidemment, hein. Donc plus on veut faire le gentil quand on a un tempérament à bouillir, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, hein, mais pour ceux qui en ont besoin, il vaut mieux que ça sorte tout de suite. Quand ça sort plus tard, en général c'est pire. Les cas extrêmes, si vous voulez, des cas extrêmes, mais heureusement, ce sont des cas rares. Mais enfin, quand on est dedans, c'est quand même une tragédie. C'est quand vous avez un type qui débarque dans une école et qui tire dans le tas. Ben, si vous avez suivi ce genre d'affaires, c'est vrai que dans certains cas, moi, je ne connais pas toutes les affaires où il y a eu des massacres de ce genre-là, mais c'est vrai qu'on se rend compte que ce sont des gens dont on parle en disant « c'est tout à fait troublant », mais non, personne n'a vu le coup venir, c'était quelqu'un plutôt de calme. C'était un introverti du fond de la classe, quoi. Un type un peu spécial peut-être, mais franchement, il n'y a personne qui a imaginé qu'il pouvait un jour péter un câble à ce point-là et faire un massacre. Et quand on fait une enquête, parce que souvent ces gens sont morts, évidemment, hein, qu'on va voir dans leurs papiers, sur Internet, etc., on se rend compte qu'en réalité, ils ruminaient une violence depuis des années et des années, parfois. Mais ça ne sort pas. Et jusqu'au jour où ça ne peut plus ne pas sortir. Et bam, et ça y est. Et donc, quand on ramasse des cadavres, ben, vous vous rendez compte qu'à ce moment-là, comment voulez-vous qu'on ne se dise pas « mais si le type avait osé gueuler tout de suite ?» Et en plus, donc ça c'est le premier problème, hein, c'est que c'est une violence qui est extraordinairement violente pour le coup. Et là, il faut faire très attention quand ça sort, quand on n'arrive plus à garder forcément, hein, donc vous imaginez bien. Mais la deuxième chose, c'est que quand ça sort en différé, on ne la comprend pas cette violence. C'est incompréhensible, c'est hors contexte. Hein, vous comprenez, le type qui débarque, parce que vous avez déjà entendu ça sans doute, hein, quand on dit « mais quoi, est-ce qu'il a reçu un mauvais bulletin la veille ?» Est-ce que sa petite copine l'a quitté? Est-ce que, enfin, je ne sais pas, on cherche une cause, quoi. Il n'y a pas de cause la veille, ni la semaine, hein. On ne trouve pas de cause. Et donc, du coup, on dit, les gens sont devenus fous. Ils sont violents comme ça, sans raison. Mais non, ils ne sont pas violents sans raison. À force de vouloir être gentil, ben, on finit par péter un câble. Et si vous devez aller chercher les raisons, mais comment voulez-vous qu'on fasse des choses pareilles? Il faut aller chercher parfois 2, 3, 4 ans plus tôt, où il y a eu des blessures terribles. Et puis de ce jour-là, eh ben ça y est, je peux pas, donc je garde, et puis vous êtes parti, quoi. Donc c'est vrai que ce sont des scénarios terribles, la violence dont les gens ont besoin quand ils prennent un coup, il faut leur permettre de le faire sortir. Ou sinon, vous prenez ce risque que ça explose en différé. Ceci dit, comment pour essayer de rendre ça un peu humain, parce qu'on pourrait se dire, oui, mais c'est des cas extrêmes, etc., donc il ne faut pas exagérer non plus, nous sommes tous quand même susceptibles de vivre cette violence en différé. Il suffit de prendre un seul exemple. Je suppose que vous avez déjà vécu ça, et si ce n'est pas le cas, rassurez-vous, ça viendra. Donc je ne m'inquiète pas beaucoup. C'est quand on vit une journée où il n'y a rien qui va. On n'a jamais vécu ça. Même en France, hein, tu sais quoi, comme on n'est pas des privilégiés. Donc, quand vous avez une journée où il n'y a rien qui va, ben, vous avez déjà vécu ça, on est sous pression depuis le matin jusqu'au soir, c'est pas possible, vraiment, c'est le sort qui s'acharne, votre voiture qui tombe en panne, le GSM qui, ah, j'ai oublié de recharger la batterie, je peux même pas appeler des secours, enfin voilà, vous accumulez comme ça pendant toute la journée. Alors ça commence à bouillir, quand on se dit, mais enfin, c'est pas possible, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu aujourd'hui, enfin, hein. Et bon, et on râle, mais on a appris à être gentil. Alors on garde. Et la journée passe, et c'est de tuile en tuile que vous allez, évidemment. Et finalement, le soir, quand vous parvenez enfin à rentrer chez vous, vous avez votre compagne ou votre compagnon qui est là. Hein, et vous arrivez, évidemment, à pas d'heure, parce que vous avez eu des ennuis encore pour revenir, évidemment. Enfin bref, mais donc, vous n'en pouvez plus, quoi. Hein, vous êtes sous pression. Mais vous avez été gentil tout du long, parce qu'on ne va pas engueuler le chauffeur de bus, on ne va pas commencer à se mettre en pétard contre le type qui vient dépanner votre voiture et tout ça. Enfin, donc voilà, on fait le gentil, mais n'empêche que c'est intenable quand même, quoi. Hein. Vous arrivez donc à pas d'heure, et imaginez que votre compagne ou votre compagnon vous dit à ce moment-là, tchou, ça sortit que tu rentres, fous-moi la paix, voilà, et ça va sortir comme ça. Et le type ne comprend rien, enfin. Hein, et en disant, mais enfin, je te dis bonjour, et tu m'engueules, mais enfin, et puis ça la dispute, quoi, ça dégénère, quoi. Hein. Ben voilà, si vous avez déjà vécu des trucs qui ressemblent un peu à ça, eh bien, c'est ce que je suis en train de vous raconter. Mais sauf que là, c'est dans la journée, ça va encore. On peut encore expliquer par la suite, ben oui, j'ai eu une journée pourrie, enfin voilà, et puis on peut s'excuser. Mais maintenant, quand c'est des années plus tard, hein, vous comprenez bien, c'est pas fou, moi, la paix, il va sortir. C'est pire, quoi, c'est un coup de revolver, quoi, ou c'est des trucs parfois de fou, quoi, hein, à quoi on assiste, évidemment. Il vaut mieux que les gens explosent tout de suite. Même si c'est pas gai, évidemment, même si ça fait peur, même si c'est embêtant, même si c'est difficile à vivre, mais du moment qu'on ne s'en prend pas aux gens physiquement, il vaut mieux. Et on peut en parler facilement après, quand la, quand la tension est retombée. Maintenant, vous avez des gens qui sont tellement bien éduqués, jamais ils n'exploseront. Et donc, le premier scénario évoqué ici, ça ne se réalisera pas. Ce sont des gens qui ont été bien éduqués. Enfin, moi, je dirais mal éduqués, mais enfin, hein, ils ont été bien éduqués parce qu'ils sont gentils, quoi, si vous voulez. Mais si on a un tempérament à être colérique, à être énervé, hein, parce qu'on a eu des blessures, etc., et que voilà, moi, c'est ma manière à moi de dire que c'est trop dur pour moi, enfin. Mais donc, j'ai appris à garder tout ça pour moi. Et du coup, comment ça peut encore sortir ? Ben, on peut jouer avec les mots, hein. Si je ne peux pas exploser, qu'est-ce que je peux encore faire ? Ben, je peux imploser. Voilà, donc c'est-à-dire c'est la violence retournée contre soi, évidemment. Et c'est vrai que dans les formes extrêmes, notamment si vous commencez tout de suite par le plus grave, ben c'est le suicide. Donc en tout cas, c'est certaines formes de suicide, hein, faites attention. Donc il y a des formes de suicide qui sont une violence retournée contre soi. C'est par exemple, si vous voulez avoir des cas simples, c'est le type qui vous fait une lettre en disant « Vous n'êtes tous qu'une bande d'imbéciles, vous n'avez rien compris à mes problèmes, eh bien vous aurez ma mort sur votre conscience. » Clac. Et le type va se tuer sur son lieu de travail, ou bien dans sa famille, ou bien là, ou en tout cas il sait qu'il va viser les gens qu'il vise. Donc là on est dans une espèce de vengeance, si vous voulez, de violence qui vise les autres en réalité. Mais comme je n'ose pas leur dire, parce que j'ai été éduqué comme ça, trop faible, enfin voilà, donc je n'ose pas, eh bien je le retourne contre moi dans le but d'encore les atteindre eux. Et quand vous prenez ce cas extrême, évidemment, quand vous décrochez de nouveau des pendus ou je ne sais quoi d'autre, hein, ça, il faut discuter avec des gens qui sont confrontés à ça, on se dit, mais si le type avait osé parler, même si c'est en gueulant, même si c'est en cassant une table, on s'en fout, mais s'il avait osé le dire, on n'en serait pas là, évidemment. Il vaut mieux permettre la violence tout de suite que ces violences retournées contre soi. D'autres formes de violences retournées contre soi, c'est par exemple les maladies psychosomatiques. Hein, si vous vous intéressez un peu à ce secteur-là, c'est vrai que dans ce que racontent pas mal de cliniciens, de gens de terrain, quand ils rentrent dans ce jeu, ils voient que souvent c'est de la violence qui a été gardée. Parce que derrière, il y a de la peur, enfin, il y a toute une série de choses, mais qui font que ça n'est jamais sorti. Et on dirait que cette violence, ben, elle doit bien sortir quand même, et du coup, ben, on s'attaque soi-même, on se rend malade soi-même, si vous voulez. Hein, donc il n'y a pas que ça, mais c'est une porte qui fait qu'en plus, si vous avez une fragilité à gauche, à droite, ben, clac, ça y est, quoi, c'est parti, bien évidemment. Donc il y a des maladies qui n'ont pas que cette cause-là unique, hein, évidemment, ça, il ne faut pas tomber dans des simplismes, en tout cas, moi, je serais méfiant, mais c'est un des éléments qui peut faire qu'on tombe, qu'on développera un cancer, de l'asthme, je ne sais pas quoi, enfin, toute une série de maladies, où on sait qu'il y a une part de psychosomatique, effectivement, là-dedans. Et là aussi, on se dit, ben, si le type avait pu parler, peut-être que, et d'ailleurs, vous avez déjà entendu ça aussi, une fois que les gens parlent, une fois qu'on arrive à leur faire cracher la valda, hein, comme on dit, eh bien, c'est vrai que, comme par hasard, les symptômes s'atténuent. C'est curieux. Et c'est ce qui donne à penser que c'est peut-être pas faux. Mais bon, c'est fort discuté dans le monde universitaire, hein, sachez-le quand même. Vous avez encore autre manière de se faire du mal pour le plaisir, si je puis dire. Vous avez la culpabilité maladive. Donc, et là, vous pourriez retrouver l'histoire des parents, par exemple, qui se sentiront coupables, effectivement, d'avoir mis au monde un enfant comme cela. Hein, et ça, je le vois aussi, par exemple, dans un autre secteur, ceci dit, mais enfin, qui ne concerne pas ici, où c'est un peu les mêmes ressentis chez certains parents, c'est quand ils mettent au monde un enfant handicapé, par exemple. Même chose, enfin, mais ça ne va pas, enfin. Et donc, culpabilité d'avoir été responsable de ça. Et en réalité, quand vous détricotez cette culpabilité, on n'est pas dans une... Vous comprenez, il y a un problème, parce qu'il n'y a pas de raison de se sentir coupable. Quand vous le dites froidement, ben enfin, pourquoi est-ce que les gens se sentent coupables de ça ? Ça n'a aucun lien, enfin. Mais pourquoi est-ce que eux, ces parents-là, tombent quand même dans la culpabilité ? Eh bien, quand vous détricotez ces culpabilités qu'on appelle des culpabilités maladives, on peut se sentir coupable quand on fait des bêtises. Mais là, qu'est-ce que j'ai fait ? Bon, la question de la responsabilité, il faut avouer quand même qu'il faut aller chercher, quoi, hein. Eh bien, en réalité, quand vous détricotez cette culpabilité-là, c'est en réalité, au départ, une violence qui est destinée à l'autre. Donc, c'est-à-dire, je ne te supporte pas. Mais quand vous êtes... Reprenez l'exemple de parents, pour aller vite ici. Quand on est parent, dire à son enfant qu'on ne l'aime pas, c'est terrible. C'est impossible même. Enfin, je ne sais pas, il y a peut-être des parents qui le font, j'en sais rien, mais enfin, oui, je sais qu'il y en a qui le font, mais quand vous êtes un parent aimant, mais comment est-ce que je pourrais vivre avec le fait que j'en veux aujourd'hui à mon enfant de m'imposer ce qu'il m'impose là ? C'est pas possible, enfin. Ça ne peut pas sortir. Donc je vais évidemment garder ça. Éventuellement même, vous allez avoir du déni, hein, dont on a parlé, c'est que je ne vais même pas ressentir cette violence que j'ai vis-à-vis de mon enfant. Ça ne peut pas être vécu quand on est un père ou une mère qui aime son enfant. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait de cette violence ? Enfin, c'est pas qu'on en fait, ça va se faire tout seul, hein, donc malheureusement, malgré nous. Eh bien, plutôt que donc de un jour pouvoir s'exprimer « je ne supporte pas, je n'aime pas ce que tu es », plutôt que de dire un truc comme ça, ça devient « mais qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il soit comme ça ?» Oui, c'est la violence qui, au départ, fait que je ne supporte pas l'autre, qui devient « c'est de ma faute », et parce qu'il faut bien que ça sorte, il n'y a rien à faire. Et c'est moi qui deviens la cible. Et je m'en veux, c'est qu'il y a quelque chose que j'ai raté dans mon éducation. D'ailleurs, les psychanalystes disent que... Et vous êtes reparti avec de l'idéologie, tout le bazar, et de la violence en plus, hein, dans l'affaire, bien évidemment. Donc faire attention, parce que ça, c'est un poison terrible. Moi, j'ai rencontré, dans d'autres situations que celles qui nous réunissent aujourd'hui, j'ai rencontré des gens qui sont enfermés dans cette culpabilité maladive, c'est des gens qui se détruisent, littéralement. C'est terrible, c'est un poison. Enfin, et je vous avoue que j'ignore comment les psys aident, ou les spécialistes en tout cas, aident ces personnes à se reconstruire. Parce que c'est vraiment une destruction massive de l'intérieur. Hein. On n'a plus confiance en rien, je suis quelqu'un de mauvais, quoi. Et voilà, et je me persécute, hein, je paye parce que je suis coupable. Ben non, il y a quelque chose là qui relève presque du délire, évidemment. Mais là aussi, donc, quand vous êtes dans ces formes-là de violence, hein, vous comprenez, mais si la personne pouvait dire simplement, c'est-à-dire quand on dit « je ne supporte pas mon enfant », de nouveau, on ne dit pas du mal de son enfant, on parle juste du fait que moi, je ne le supporte pas. Et donc, il n'y a rien à se reprocher. Je ne fais du mal à personne. Enfin, évidemment, il faut pouvoir l'entendre comme il faut l'entendre. Hein. Mais en attendant, si on pouvait simplement le dire, pour moi, c'est dur, c'est difficile. Ben, c'est le constat, simplement, de mes limites à moi, quoi. Et je ne fais du mal à personne, hein, quand je vis ce genre de choses, bien évidemment. Mais enfin, non, il faut être tout puissant, il faut être un bon parent, donc on ne dit pas ce genre de choses et on est parti. Donc, violence, ça c'est le deuxième comportement, et vous comprenez bien, essayez de ne pas le culpabiliser, de ne pas le moraliser. Si les gens en ont besoin, il vaut mieux qu'ils le vivent, même si, évidemment, donc ça je le sais bien quand même, hein, si, enfin, je suppose que comme vous, que vous aussi vous avez été confronté à des situations de violence, c'est pas gai à vivre, mais il vaut mieux ça que des drames. Et puis vous avez un troisième comportement possible qui traduit aussi le fait que pour l'instant c'est trop dur. C'est tout ce qui va tourner autour de ce qu'on appelle, c'est un peu trop général de le dire ainsi, mais enfin, tout ce qu'on appellerait la dépression. Donc l'effondrement intérieur. Le sentiment que ben, s'il faut vivre avec ça, alors ma vie n'a plus de sens. Donc ce n'est pas de la violence, ce n'est pas de la fuite, c'est je ne fuis pas du tout, j'ai bien conscience du problème. Mais pour moi, c'est trop dur, enfin. Et donc, je m'effondre, je pleure, je désespère, je ne trouve plus de sens à l'affaire. Enfin, ma vie est devenue absurde, enfin bon. Et donc, c'est ce repli sur soi, ce désinvestissement à l'égard de la vie, et qui, lui aussi, peut conduire, quand ça s'aggrave, peut conduire jusqu'au suicide. Mais vous comprenez, vous n'êtes pas dans le même scénario que tout à l'heure. Ici, ce n'est pas le suicide par violence pour faire du mal, pour dire enfin aux autres ce que je voudrais bien leur dire. Quand vous discutez avec des gens qui ont été dans des tentatives de suicide dans le scénario de la dépression, c'est des gens qui vous disent « mais on ne veut faire du mal à personne, nous autres ». Simplement, c'est tellement évident que ça n'a plus de sens de continuer à vivre que demain, à l'arbre là-bas, je me pends. C'est tout. Et le but, ce n'est pas de faire du tort. C'est devenu... Donc, c'est des gens qui sont... Enfin, quand on essaie de comprendre, donc, entendez bien, il n'y a pas de liberté là derrière, hein. Donc trop souvent, on dit ben, « le suicide, c'est finalement la liberté des gens, qu'est-ce que vous voulez, il faut bien la respecter, hein, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre ?» Mais en réalité, les gens qui témoignent, pas pour ceux que je connais et les spécialistes qui m'en ont parlé, les gens qui sont embarqués là-dedans et qui ont raté leur coup vous disent « quand vous êtes dans cette mouvance où c'est devenu une évidence qu'il fallait le faire, vous n'êtes plus libre. » Vous êtes pressé de le faire, si vous voulez. Un peu comme, si vous voulez comprendre, ça me semble être du bon sens, hein, on peut le comprendre facilement, c'est un peu comme si, c'est pour ça qu'on range ça dans la dépression, comme si vous disiez qu'on était libre de choisir d'être dépressif. Ben, si vous connaissez des dépressifs, il n'y a aucune liberté là-dedans, c'est une vague qui vous emporte malgré vous, et vous sombrez, et vous avez beau dire non, surtout pas, je ne veux pas retomber là-dedans, ben, vous y retombez quand même, il n'y a pas de liberté là-dedans, ben, si vous voulez, c'est un peu la même chose avec le suicide. C'est pas « je décide de », c'est une vague qui vous prend et ça devient une évidence qu'il faut accomplir, enfin. Hein, et donc vous êtes plus pris par la nécessité de ce qui vous pousse là. Enfin bref, tout ça pour dire, c'est vrai qu'il ne faut pas croire qu'il suffit de savoir ce que l'on est, hein, pour pouvoir l'être. Quand on découvre que ce que l'on est, ce n'est pas ce qu'on croyait, ben c'est vrai qu'il faut d'abord accepter évidemment le bouleversement que ça génère, et c'est vrai que dans la vie de tous les jours, dans toute une série de choses où il y a des deuils, des petits, des grands deuils à vivre évidemment, eh bien on se rend compte que dans un premier temps, les gens vont essayer de tempérer, de reporter, de repousser, etc., etc., et ils vont s'enfermer plutôt dans tous ces comportements qui traduisent que pour eux, le fait que pour eux, donc c'est décidément trop dur, ce qu'il faut bien accepter pour l'instant. Donc ce à quoi on est invité ici, c'est d'accepter ça. D'accepter, d'oser le vivre quand on est confronté à ça. Il y a une éducation qu'on a eue, peut-être chez vous aussi, enfin en Belgique en tout cas on a eu ça, une éducation qu'on a eue où il y a une espèce de pudeur qu'on doit avoir. On ne parle pas de ces choses-là, on ne doit pas les montrer. C'est faire aveu de faiblesse, enfin je ne sais pas quoi, enfin, il y a toute une idéologie là autour. Eh bien, c'est une idéologie qui est morbide. Et maintenant, on paye, enfin, on ramasse les morceaux, quoi, si vous voulez. Heureusement, ça change. Maintenant, je ne dis pas qu'il faut aller casser tout, comme on le voit ici, évidemment, mais le fait que, voilà, à titre individuel, les gens osent parler plus facilement quand même, hein, osent dire les choses, c'est quand même, me semble-t-il, positif, parce que c'est le mouvement de la vie, quoi, si vous voulez. Hein, donc, ouais, il faut passer par là. Donc, vous voyez bien, croire qu'en faisant de la philosophie, on pourrait soi-disant accepter ce qu'on est, eh bien, où va-t-on ranger ça? C'est une forme de fuite. C'est s'empêcher de passer par tout le travail qu'on doit faire pour y arriver. On ne change pas de peau sans se faire du mal, quoi, si vous voulez, sans d'abord résister. Et la philosophie, le fait d'intellectualiser, c'est parfois des manières de, hein, clairement, repousser les choses. La foi, tout de suite se raccrocher au fait que ben, c'est mon destin, et donc j'accepte sans plus, eh bien c'est une façon d'étouffer tout ce qu'on vit. Et c'est là que ça devient une fuite. Donc comme la philosophie, la foi peut être instrumentalisée pour ne pas faire ce qu'on a à vivre, évidemment. Hein, donc, enfin, c'est toutes les mauvaises utilisations de choses qui sont bonnes en soi, hein, mais hein, bon, ça vous connaissez, bien évidemment. Donc faire attention, donc, c'est pour vous dire, voilà, on trinque, évidemment, quand on parle, et vous voyez le problème, hein, donc le bonheur à l'épreuve du réel, ben, le réel, c'est que quand on veut essayer d'être soi-même, il faut se battre, quoi, c'est tout, quoi. Enfin, il faut vivre ce qu'on a à vivre, et c'est différent pour chacun d'entre nous, ça se résume plus ou moins à ce que je viens de vous raconter. Et donc, pour arriver au bonheur, ça ne commence pas par le bonheur, quoi, en d'autres termes. Donc, il y a un chemin quand même, évidemment, à suivre. Et puis, vous avez le deuxième moment. Le deuxième moment, c'est le moment où on va commencer à accepter. Donc, c'est-à-dire que l'idée ici, c'est la suivante. Hein, quand vous voulez décrire les deuils de manière classique, c'est que souvent, on finit par accepter ce que l'on est quand on s'est épuisé à le refuser d'abord. En règle générale. Donc je dis, mais je connais pas tout, je connais pas toutes les vies, évidemment, mais enfin, bon, plus vous en lisez, plus vous en connaissez, plus je discute avec des gens, et c'est souvent à reculons. D'abord, j'ai eu besoin de refuser, c'était trop dur, c'est pas possible. Et c'est quand on épuise ça qu'on finit par pouvoir s'ouvrir, effectivement. Il y a une image que j'utilise parfois pour faire comprendre ce processus. Je vais vous la raconter parce que peut-être que ça va vous parler. Quand j'étais gamin, on m'avait raconté que les énormes bateaux, les porte-conteneurs, hein, vous voyez donc ces bateaux gigantesques, quand ils veulent s'arrêter, hein, quand ils arrivent au port, quand ils veulent s'arrêter, eh bien en fait, il ne suffit pas de couper ses moteurs et on s'arrête et on est au port, quoi. Hein. Ils coupent leurs moteurs et pendant des miles, ils continuent sur leur lancée, évidemment, vu la masse du bateau, hein, c'est tout à fait logique, et ils continuent jusqu'au moment où ils vont s'arrêter. Eh bien, un deuil, ce dont je suis en train de vous parler ici, c'est exactement la même chose. Quand votre vie, baf, est coupée net, il se passe quelque chose. Basculement. Eh bien, pendant des jours et des jours, pour certains, ce sera pendant des semaines et des semaines, pour d'autres, ce sera parfois pendant des années et des années, on va continuer sur sa lancée, l'ancienne vie qu'on a vécue pendant très longtemps. Et donc, il ne suffit pas que tout ait basculé dans ma vie, il faut encore que j'épuise cette vie d'avant pour que, quand je m'arrête enfin, je puisse alors prendre une autre direction. Mais ça ne se coupe pas du jour au lendemain, effectivement, malheureusement. Et donc, la fuite, la violence et la dépression, c'est tout ce que l'on va vivre pendant qu'on est toujours sur la lancée de l'ancienne vie qui nous a nourris pendant tellement longtemps que je n'arrive pas à en sortir du jour au lendemain. Par exemple, dans un deuil classique, hein, ici, pour vous d'autres fois, c'est une image que j'ai, mais enfin, c'est une dame qui m'a raconté ça. Mon mari est décédé. Et elle me raconte, eh bien, pendant quelques jours, c'est cette histoire du pétrolier, je me suis encore surprise, dit-elle, à prendre deux assiettes quand je mets la table. Et puis, imbécile, va. Alors j'en remets une. Mais vous voyez toutes ces habitudes qu'il faut prendre le temps de déconstruire pour enfin pouvoir être ce qu'on est devenu. Ça ne va pas tout de suite, tout seul, ça ne s'arrête pas du jour au lendemain. Voilà, c'est tout ce temps dont on a besoin, effectivement. Et donc, quand enfin on peut s'arrêter et qu'on peut enfin accepter donc, ce que finalement nous sommes, hein, depuis tout ce temps, eh bien, comment vous avez, donc l'acceptation bien sûr, mais ça peu importe, donc, enfin, c'est le but du jeu bien sûr, mais vous avez une étape intermédiaire qu'il est intéressant de pouvoir décrire, qui est ce qu'on appelle le marchandage. Et ça, quasi tout le monde, nous y passons. C'est-à-dire, pour pouvoir accepter ce que nous sommes, eh bien, pour la plupart d'entre nous, il y a peut-être des exceptions, mais je vous avoue que je n'en connais pas personnellement, et je n'ai jamais lu dans la littérature qu'on racontait des exceptions, enfin, soit. Mais on passe toujours par l'étape de marchandage, c'est-à-dire que si finalement je dois accepter ce que je dois accepter, c'est que j'y trouve un intérêt. Marchandage. Je veux bien lâcher ce que je dois lâcher, pour accepter ce que je dois accepter, parce que pour accepter ce que je suis, me procure un intérêt ou un avantage qui fait que ça vaut la peine. il n'y a personne qui accepte de renoncer sans raison, si vous voulez. Je vais vous donner un exemple tout bête, un peu naïf, mais enfin, c'est pour que vous compreniez ce que je veux dire ici. Si je vous demandais maintenant de vous couper une main, il y a des couteaux, hein, je vous rappelle, donc on peut le faire. Ben, vous allez me dire, c'est du n'importe quoi, c'est ridicule, évidemment que je vais refuser, même moi, hein, donc bien évidemment. Pourquoi ? Parce que vous n'avez aucun intérêt, il n'y a pas de marchandage possible. Quel serait l'intérêt que vous fassiez une chose pareille ? Aucun. Maintenant, vous connaissez peut-être l'histoire de ce monsieur qui faisait de l'escalade, qui est tombé, et il a coincé sa main dans un rocher. Je ne sais pas si vous avez vu, on en a fait un film, moi je n'ai pas vu le film, mais enfin bon, peu importe. Et donc on a raconté l'histoire de ce monsieur, donc coincé, tout seul, il appelle à l'aide, il est tout seul dans la montagne, il n'y a personne pour le sauver, il attend un jour, deux jours, je ne sais plus combien de temps, personne, la seule issue, s'il veut vivre, marchandage. S'il veut vivre, ben, il ne voit pas d'autre solution que de couper sa main. Et ce type avec son canif, donc vous imaginez le truc, hein, il va se couper la main pour pouvoir se dégager et partir, quoi. Hein. Quand vous êtes mis en situation de devoir lâcher quelque chose parce que ça vaut la peine de le faire, jusqu'à un truc ici extrême, enfin vous reconnaissez, moi je ne sais même pas si moi je l'aurais fait, je vous avoue, hein, mais enfin bon, eh bien on est surpris de voir ce qu'on est capable de faire. Freud a une petite phrase qui résume bien ça, il dit « L'homme ne sait renoncer à rien, il ne sait qu'échanger ». On échange. Donc pour accepter ce qu'on est devenu, pour se réconcilier avec ce que l'on est devenu, ça demande qu'on lâche tout ce qu'on n'est pas. Et la question qu'on vous pose ici, c'est, eh bien, quel est l'intérêt que vous avez trouvé à lâcher tout ce que vous n'étiez pas, de façon à pouvoir enfin se réconcilier avec ce que l'on est. Qu'est-ce qui fait que voilà, ça valait la peine de le faire ? Ben, chacun, ça c'est des affaires personnelles, hein, chacun trouvera bien quelque chose, mais à un moment donné, voilà, donc il y a parce que j'ai une raison de le faire, alors je le fais. Il y a des parents qui racontent, et c'est souvent les mamans, hein, qui parlent de cela, moi j'ai accepté mon fils ou ma fille comme elle est, ou comme il est. Ben, pourquoi ? Ben, parce que l'intérêt que j'ai, évidemment, c'est que j'aime mon fils et mon enfant, et je ne veux pas le perdre. Et c'est ce qui fait que même si c'est comme ça, ben, je préfère encore l'aimer comme ça, plutôt que de ne plus l'aimer du tout, ou de ne plus le voir du tout, évidemment. Et le marchandage est facile, enfin il est facile, il est visible. Non, ce n'est pas facile à vivre, hein. Pour certains parents. Mais en attendant, on voit bien qu'il y a un enjeu qui est que je ne veux pas perdre quelque chose, donc je préfère encore lâcher et accepter maintenant la situation nouvelle, évidemment, hein, etc., etc. Enfin bref. Donc c'est vrai qu'il y a cette étape-là, et ça on vous dira dans tous ces enjeux-là. Donc de nouveau, il n'y a pas à se culpabiliser. On n'est pas des marchands de tapis, c'est un processus de vie. Il n'y a pas moyen d'accepter ce qu'il faut accepter si on n'y trouve pas un intérêt. Nous sommes faits comme ça. Et donc il n'y a pas à dire, oh, mais ce n'est pas bien, il faudrait qu'on accepte gratuitement sans raison. Même ceux qui le disent, ils marchandent. Sauf qu'ils n'en ont pas conscience. Mais par exemple, on va vous dire, je vais le dire de manière naïve ici, en acceptant gratuitement sans raison, eh bien, je gagne mon paradis. Donc c'est de manière naïve que je vous dis ça. Mais il y a toujours bien quelque chose qui fait que ça vaut la peine de le faire, même si on ne se l'avoue pas, évidemment. Ben, de nouveau, hein, ce qu'on vous dira ici, si vous comprenez ce qu'est le processus dans lequel on est, il n'y a pas de quoi être honteux de ça. Ça nous ramène à l'égoïsme d'hier. On fait toujours les choses parce qu'on y trouve un intérêt. Et c'est une bonne chose quand c'est fait parce que ça a du sens et parce que ça permet de pouvoir être heureux. Maintenant, c'est le but de l'égoïsme, c'est pas d'être égocentré comme on l'avait dit, mais enfin ça on en reparlera peut-être tout à l'heure, parce qu'il y a une question qui reste en suspens avec cette affaire-là à propos de Dieu. Est-ce que Dieu crée par égoïsme ? Hein, donc si, enfin voilà, donc ça on en reparlera tout à l'heure éventuellement. Donc premier point que je voulais évoquer, c'est celui-là, c'est que donc c'est bien beau de dire nous sommes un être humain déchiré entre d'une part notre imaginaire et puis de l'autre côté la réalité, il suffirait d'accepter la réalité. Donc ce que je voulais quand même apporter ici pour que l'on ne soit pas dans le jugement, qu'on puisse comprendre et qu'on puisse s'autoriser à vivre tout simplement, c'est que c'est tout un processus pour y arriver et que c'est pas facile et que c'est parfois par la souffrance effectivement, hein, que l'on y arrive. Maintenant je me rends compte qu'il est l'heure d'arrêter et je